Je ne crois pas que l'on naisse seul, je pense au contraire que l'on naît à deux, dès la période intra-utérine, dans la relation émotionnelle, affective et somatique à la mère puis au père. Les premières sensations éprouvées dans le lien affectif du début de la vie constituent une expérience émotionnelle corporelle qui façonne notre psyché et la rend concrète. Pour en saisir plus tard les conséquences réelles et subtiles, il faudra avoir conservé cette aptitude d'écoute des manifestations somatiques, c'est-à-dire des signaux physiologiques, nœuds à la gorge, serrement à l'estomac, respiration ou rythme cardiaque accéléré, indiquant déjà dans le corps nos états émotionnels, parce que le corps dit les émotions bien avant que la tête ne les comprenne. L'être humain est capable de percevoir et d'analyser en moins de 200 millisecondes les informations issues de son environnement, bienveillant ou malveillant. Cela concerne également la perception du langage non-verbal des personnes qui interagissent avec lui. Nous avons donc ressenti et parfois réagi longtemps avant que notre cerveau gauche, celui du rationnel et des opérations logiques et mathématiques, ait eu le temps d'analyser et de comprendre. Tous nos sens sont en constant éveil, même dans le sommeil, pour tenter de maintenir notre homéostasie, cet équilibre fragile et essentiel que notre corps et notre esprit cherchent perpétuellement à maintenir, malgré un environnement qui nous influence sans cesse. Notre psychologie tout entière est imprégnée du cumul de sensations imprimées en nous depuis le jour 1 de notre conception et qui agissent inconsciemment pour dicter nos pensées, nos réactions et nos comportements. On ne choisirait donc pas toujours sa vie aussi consciemment que l'on pense. Il est fondamental d'apprendre ou de réapprendre à lire les signaux corporels disponibles en nous pour faire de notre corps un allié avec ses messages subtils et constants sur nos états émotionnels. En somme, il s'agit surtout de maintenir une connexion optimale entre corps et esprit pour favoriser un échange fluide d'informations et se maintenir en bonne santé physique et psychologique. Aussi assiste-t-on de nos jours à l'émergence de nouvelles approches visant l'intégration de plusieurs sciences pour étudier les conséquences toxiques, voire délétères, d'une connexion corps-esprit déséquilibrée. Tel est l'objet, par exemple, de la psychoneuro-immunologie. Les études montrent que le cerveau, tout au long de la vie, a la capacité de créer des connexions au fil d'expériences émotionnelles significatives. Du coup, de nouveaux comportements et de nouvelles réactions peuvent apparaître sous l'effet stimulant de rencontres affectives constructives. Je suis contre l'idée que l'on ne change pas. Je préfère croire en la neuroplasticité de notre cerveau, qui affirme tout le contraire. Ainsi, malgré les habitudes réflexes installées de longue date dans notre vie, nos neurones ont la capacité de communiquer différemment à la suite de nouvelles expériences pour produire de nouveaux comportements. En tant que psychologue, dans le secret de mon bureau, j'ai maintes fois constaté les changements remarquables qui témoignent hors de tout doute de l'impact bienfaisant sur une personne d'une psychothérapie sécurisante et aimante, des changements de vie subséquents et de l'émerveillement d'un bonheur intérieur naissant et partagé. Une nouvelle expérience relationnelle réparatrice. Le psychologue n'étant pas celui qui résout les problèmes de l'autre, ce constat de la réparation n'est pas le reflet de mon omnipuissance professionnelle, mais celui de l'affirmation réelle de personnes qui se sont reconstruites elles-mêmes en thérapie, travailleurs et travailleuses acharnées de leur propre psychologie. Elles se sont libérées progressivement des chaînes affectives du passé, après avoir revisité les affres d'une longue histoire émotionnelle qui étouffait leur souffle vital et les empêchait de concrétiser leurs aspirations. Il est donc possible de naître ultérieurement dans la vie, au détour de rencontres significatives et d'expériences positives, et de faire ainsi un pied de nez à un début de vie fragilisant. Si nous mourons là où se vit la répétition de la souffrance, nous naissons là où se vit l'inspiration libre du présent. Arrêtons-nous sur ce qui nous assombrit, juste assez pour nous enrichir de ce qui est à comprendre, puis allons de l'avant, dans une direction de vie toujours plus lumineuse, riche des expériences du passé et de leur sagesse, curieux des pages vierges qu'il nous reste à écrire. Avec le temps et mes années d'expérience clinique, je relativise davantage le caractère inéluctable.